Les manchettes sportives, présentées par BPM Sport.
BPM Sport,
la radio des sports au Québec.
Hey, c'est vendredi! Jordan, content de vous voir, content de vous faire vivre les sports en couleur. C'est ça qu'on aime. Aujourd'hui, hier soir, on s'attendait à un bon match de hockey puis à une varlope dans la NFL. Totalement l'inverse. Le Canadien s'est fait détruire, démolir, 7-0, défaite contre les Stars de Dallas. Les Bruins devraient payer pour la semaine de misère que le Canadien a vécue. Prochain match, les Bruins de Boston qui seront au Centre Bell samedi soir. Pendant ce temps-là, début de la semaine numéro 11 dans la NFL, on se dit, c'est sûr que New York va se faire anéantir par le nouveau petit bijou de la NFL, Drake May. Ben non, les Jets, oui, ils se sont fait battre, là. Mais quand même, ça a été un meilleur match que ce qu'on prévoyait. Donc voilà, la semaine numéro 11 qui est partie dans la NFL. Il va y avoir un paquet de gros matchs toute la fin de semaine à surveiller. Moi, ce que Joe Dan va surveiller les Chiefs de Kansas City contre les Broncos à 16h25. Ce match-là, il me parle. J'ai l'impression que ça va être ben, ben bon. Et puis, manquez pas le Pépé Tour également. On sera là à New York toute la fin de semaine. Ben en fait, ils seront là, Jordan, lui. On ne sait pas s'il est là. Bon week-end, Jordan. Jordan revient la semaine prochaine. See ya!
Pour plus de sport, c'est BPM Sport.
BPM Sport.
100.9.
Présenté par Monnet Express. Déménagement résidentiel, commercial, longue distance ou international. Vous déménagez? Appelez Monnet Express. Les déménageurs qui déménagent.
Choix.
98.
1. Choix. Radio X. À Québec, c'est Radio X. Choix.
Radio X.
Faites-vous votre propre opinion.
Oh my gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west.
Radio X. Files.
Avec Christian Page.
Oh my gosh.
Radio X.
Mon créateur a livré son récit. Alors, je vais vous livrer le mien.
Vendredi soir et bienvenue dans les Radio X-Files. J'espère que vous avez passé une agréable journée. Christian Page, j'espère que tu as passé une bonne semaine.
Ah, toujours. Toujours très occupé quand même.
Oui, j'imagine. Ce qu'on vient d'entendre, c'est la bande-annonce du nouveau film de Frankenstein qui est diffusé sur Netflix. Et on va se concentrer sur des questions du public parce que je crois que les gens t'ont posé des questions à propos de cette histoire-là.
Non, pas... Effectivement, donc, c'est le nouveau film de l'heure là, sur Netflix, Frankenstein, qui est adapté du... C'est la énième adaptation du roman de Mary Shelley, publié en 1818. Donc, c'est quand même un roman qui date un peu, hein, qui nous renvoie à l'époque qu'on appelait la littérature gothique britannique. Et ce roman, bon, ce film de Frankenstein, c'est, comme je l'ai mentionné, une énième version. Il a été réalisé par Guillermo del Toro, qui est quand même un réalisateur mexicain que j'apprécie beaucoup. Il a fait des films extraordinaires. J'avoue d'ailleurs, dans ma liste des plus grands films de fantômes de tous les temps, l'un de mes favoris, c'est L'Échine du Diable, un film de 2001, qui avait été réalisé par Guillermo del Toro. C'est un film espagnol. Lui, del Toro, est un réalisateur mexicain. Donc, il avait réalisé ce film. Il a également réalisé un film là, qui s'appelle La forme de l'eau, qui est une histoire de créature qui était gardée dans un laboratoire, une créature aquatique, qui était un peu une reprise, mais un peu à la mode del Toro, de la créature du Lagon Noir. Et puis voilà, donc, il revient avec ce film, Frankenstein, qui, dit-il, était un rêve d'enfant. Et ce qui est intéressant dans le cas de Frankenstein, c'est que, bon, bien sûr, c'est pas un film qui est basé sur une histoire vraie, mais c'est un film dont les coulisses du roman, mais également les coulisses du personnage, sont plus intéressantes, à mon avis, que le film lui-même ou le roman lui-même. Parce que dans le cas de Frankenstein, c'est vraiment plusieurs histoires en une. D'abord, regardons la façon dont ce roman il est né. Peu de gens savent que Frankenstein est né d'un défi littéraire. Hein, on est en à ce moment-là, il faut se replonger dans le contexte, on est en 1816 et on a, en Grande-Bretagne, dans les environs de Londres, on a toute une communauté de gens, de jeunes poètes, de jeunes écrivains, qui font partie d'une élite, mais qui en même temps sont très dissidents des règles de la bienséance et de la religion qui sont à la mode à ce moment-là. Donc des gens qui forment un peu un groupe de marginaux. Et parmi eux, on a des gens comme, par exemple, Lord Byron. Il faut dire que Lord Gordon Byron est un auteur, poète aussi. Et bon, des gens aimaient bien le critiquer parce que, bon, c'est un individu qui est très dissident. Il avait d'ailleurs une vie sexuelle assez débridée. Et comme Byron était né avec un pied beau, hein, il marchait en boitant, donc certaines mauvaises langues disaient c'est parce qu'il sent le soufre et qu'il est lié au diable.
Oh là là!
Tu vois un peu. Et parmi, bon, le cercle rapproché de Lord Byron, on avait des gens qui étaient des auteurs, des poètes qui étaient en pleine expansion. Il y avait, par exemple, Percy Bysshe Shelley, qui à ce moment-là était un poète lui-même. Hein, pour te montrer un peu l'idée, hein, comment ces gens-là sont dissidents, Percy Bysshe Shelley, d'ailleurs, alors qu'il était étudiant, avait écrit un essai qui s'intitulait « La nécessité de l'athéisme ». Alors, si tu vois un peu le genre d'ouvrage, alors qu'on est dans cette époque là, quand même très puritaine, on est le très religieux britannique de cette époque, du début du 19e siècle. Donc, on a ces gens qui sont très marginaux. Donc, Percy Bysshe Shelley, à ce moment-là, il courtise une certaine, tu l'as bien compris, mais celle qui va devenir Mary Shelley, qui s'appelle Mary Wollstonecraft Godwin. Bon, voilà.
Facile à dire, hein? Oui.
Et voilà, c'est ça. Et qui va devenir Mary Shelley, et cette Mary Wollstonecraft Godwin, c'est la fille de Mary Wollstonecraft, qui, elle, est pratiquement la fondatrice, une femme de lettres, fondatrice du mouvement féministe britannique.
Okay.
Donc, tu vois, on erre dans ce milieu très dissident, finalement, hein, qui va marquer là, un pas sur déjà tout ce qui a été imaginé là. Et bon, on a tout ce gratin-là, et ce qui nous amène en 1816... Ce fameux Lord Byron va décider de louer une villa sur les bords du lac Léman en Suisse, qui s'appelle la Villa Diodati. Et là, il invite ses amis. Et bon, on a toute une poignée de gens là, qui font tous partie de ce gratin poétique, littéraire, à l'époque une espèce d'élite marginale. Et parmi les plus connus, ben, ce jour-là, il y a, bien sûr, il y a Lord Byron lui-même, il y a Percy Shelley avec sa fiancée, qui va devenir Mary Shelley. Il y a également le docteur John Polidori, qui est un homme de lettres également, et qui est amant, si on peut dire, de Lord Byron, parce que Lord Byron, il est aux hommes, il est bisexuel, donc, et à ce moment-là, donc, il entretient une liaison avec le docteur John Polidori. Donc, ces gens-là arrivent, ils vont s'installer à Dadiodati. C'est une belle journée d'été, on est autour du lac Léman. Et Lord Byron va lancer comme ça, durant la soirée, il va lancer un défi. Lequel d'entre eux serait en mesure d'écrire la meilleure histoire d'horreur? Et donc, chacun se retire dans ses appartements. Ils ont la nuit pour y penser. Et le lendemain matin, alors que tout le monde se réunit pour le petit déjeuner, chacun lit un peu les premières idées qu'elles ont mises sur papier. Et à ce moment-là, parmi ces personnes, on ne sait pas ce que Lord Byron a écrit, on ne sait pas ce que Percy Shelley a écrit, mais il y a deux de ces écrits, à tout le moins, qui vont nous parvenir jusqu'à aujourd'hui, sous différentes formes. Il y a d'abord Mary Shelley, qui, elle, a placé, on dit Mary Shelley, mais à l'époque, elle reste encore Mary Wollstonecraft Godwin, hein, elle n'est que la fiancée de Percy Shelley. Et donc, elle met sur papier les premières lignes de ce qui va devenir éventuellement son roman Frankenstein. Le titre complet, c'est Frankenstein ou le Prométhée moderne. Et donc, qui sont la prémisse, en fait. C'est quelques pages seulement, c'est pas le roman lui-même. Mais durant la nuit, elle a écrit ces lignes. Et on sait que John Polidori, lui, va écrire un texte qui va s'appeler The Vampire. Je fais ça avec un petit aparté à propos de Vampire, parce qu'il y a quelque chose de très intéressant dans The Vampire. Parce que cette pièce, hein, bon, Vampire avec un Y, hein, V-A-M-P-Y-R-E, et c'est ce qu'a écrit John Polidori. On ne sait pas, encore une fois, je le répète, on ne sait pas ce que Byron a écrit, puis on ne sait pas non plus ce que Shelley a écrit. Mais en 1919, ce texte de Vampire, un petit peu plus étoffé que celui qui est sorti à l'issue de cette fameuse soirée littéraire, donc, Polidori l'a étoffé et il va l'adapter en pièce de théâtre. Et en 1819, la pièce de théâtre de Vampire, on est quand même ici, il faut quand même replacer le contexte, on est quand même 70 ans avant que Bram Stoker publie son très célèbre Dracula, hein, qui sera publié en 1897. Oui. Et donc, The Vampire est joué au théâtre. Et là, il y a un petit détail assez amusant. Les critiques qui vont voir la pièce... C'est une histoire de vampire, on s'entend bien.
Évidemment.
Donc, les gens qui vont voir la pièce trouvent que l'écriture et les rebondissements de l'histoire leur font penser à un style littéraire qui est propre à Lord Byron. Et certains vont même... Les critiques vont même écrire dans la presse. Et si la pièce de Vampire n'avait pas été écrite tout à fait par John Polidori, mais par Lord Byron lors de cette fameuse rencontre à Diodati, à la résidence de Diodati, et que Byron, un peu insulté de cette fête d'Amilpion par Mary Shelley, aurait pris son texte, on aurait fait une boule de papier, il l'aurait jeté dans la poubelle. Et John Polidori aurait retrouvé le bout de papier dans la poubelle, l'aurait déplié et l'aurait élaboré pour en faire la pièce de Vampire. Donc c'est un peu un scénario amusant. Mais faut quand même le dire, lorsque ces critiques vont être publiées, Lord Byron va en prendre connaissance et insulter. Il va écrire aux médias de Vienne, pour dénoncer que non, cette pièce qui est jouée au théâtre, la pièce de Vampire, est une pièce qui a été écrite essentiellement par son ami John Polidori et que lui n'a absolument rien à voir là-dedans. Mais le doute va quand même persister, hein, même encore aujourd'hui dans les milieux littéraires, quand on parle de Vampire, de John Polidori, il y a toujours un petit sourire en coin et on se demande dans quelle mesure Lord Byron y a contribué. Bon, quoi qu'il en soit, ça c'était pour The Vampire, mais pour ce qui est de Mary Wollstonecraft Godwin, il y a cette écriture, ce texte qui est sur quelques pages où elle raconte l'histoire de ce docteur Victor Frankenstein qui va créer un nouvel être humain à partir de morceaux de cadavres. Bon, c'est l'histoire classique, on la connaît, l'histoire. Il faut quand même le mentionner aussi, la version qui est présentée à Netflix s'éloigne quand même à plusieurs endroits, elle s'éloigne de la version originale. Par contre, que la version Netflix de Guillermo del Toro a conserver, c'est cette... Et ça, je passe... Je sais pas, c'est une question de goût. Est-ce que ça passe bien ou moins bien auprès du téléspectateur? Mais il faut savoir que l'œuvre de Mary Shelley, c'est pas vraiment une œuvre d'horreur. Hein? Oui, c'est une œuvre d'horreur pour le contexte de l'époque. Oui, mais c'est de la science-fiction également. Mais il faut quand l'idée de ce roman-là, c'est pas simplement l'image que fait le sentiment qui se dégage de l'œuvre de Mary Shelley. C'est pas simplement de dire bon, on est une espèce de docteur fou qui fait un être humain là. En fait, c'est une vision beaucoup plus profonde sur le rôle de Dieu. Hein? Donc, okay. Dans le roman.
Ouais, ouais, ouais.
Puis dans le roman, il y a deux choses qu'il faut retenir. Hein. En cette époque, là, au 19e siècle, il n'y a pas encore de photographie. Et les gens ont très peu voyagé. Il faudra attendre l'avènement des grands navires, là, les grands transatlantiques, genre Titanic, là, pour que les gens commencent vraiment à voyager à travers le monde. Donc, bien souvent, des gens passaient leur vie à moins de 200... Toute leur vie se découlait à moins de 200 kilomètres autour de leur lieu de résidence. Hein. Les déplacements étaient plus compliqués. Là. Donc, les gens, beaucoup de choses exotiques n'existaient que sous forme littéraire. Donc, les gens n'avaient rien vu. Et quand on lit, par exemple, le roman de Mary Shelley, mais c'est vrai également pour des romans, que ce soit Alexandre Dumas, là, on parle ces derniers jours de l'adaptation du Comte de Monte Cristo, là, de Edmond Dantès, qui devient le Comte de Monte Cristo, qui va être adapté au Québec en pièce de théâtre. Ou encore, on pense au roman de Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers, tout ça. Il y a énormément de descriptifs. Quand on lit ces ouvrages-là, ça peut paraître un peu redondant pour un lecteur de 2025, mais on comprend que quand Jules Verne raconte des poissons exotiques, peu de gens sont allés dans les mers du Sud et ont vu des poissons exotiques. Donc, il va prendre 4 pages pour te décrire un poisson, là. C'est pas genre.
Si
toi, là, quand tu lis ça, tu trouves ça un peu redondant, il faut quand même se mettre dans la peau du lecteur de l'époque qui n'avait pas vu ces trucs-là, d'où l'insistance énorme sur les descriptions. Et c'est exactement ce que fait Mary Shelley, évidemment, c'est qu'elle doit composer par l'écriture ce que les gens n'ont jamais vu. Donc, elle décrit un peu les expériences du docteur Frankenstein. D'ailleurs, Frankenstein, ce n'est pas le nom de la créature. Hein. C'est le nom de son créateur. Le créateur, c'est Victor Frankenstein. La créature s'appelle simplement la créature. Elle n'a pas de nom. Donc... Mary Shelley, donc, ce qu'on a conservé dans la version de 2025 de Guillermo del Toro, c'est qu'on a conservé ces longues diatribes entre le docteur Frankenstein et sa créature. Hein? Et ce discours, il tourne beaucoup autour de Dieu. Hein? Le rôle de Dieu dans la création, est-ce pourquoi Dieu crée des êtres humains imparfaits? Donc, il y a toute cette vision-là. Est-ce qu'on a le droit de jouer à Dieu? Jusque où s'arrête le pouvoir de l'homme versus le pouvoir de Dieu. Donc, il y a toute une espèce de grande philosophie autour de ça. Et on a conservé ça. C'est-à-dire que dans le film de Guillermo del Toro, il y a de très longs passages, certains diront des longueurs, où effectivement la créature va se plaindre auprès de son créateur. Et ils abordent toute cette question de moralité que d'avoir créé un être vivant. Mais un être vivant qui est à part aussi. Parce que bon... Il revient souvent sur la notion de, en disant à son créateur, tu avais promis de me donner une compagne, je n'en ai pas, je suis finalement seul. Hein, tu comprends? Même s'il est un être vivant, il est seul dans ce monde. Donc, il y a toute cette notion-là qui est conservée. Pour certains, c'est trop long. Pour certains, c'est redondant. Mais il faut comprendre que c'était quand même aussi la philosophie du roman. Lorsque Mary Shelley écrit son roman, son but n'est pas de faire peur au lecteur, elle dit, ouais, on a créé un monstre avec des morceaux de cadavres. C'est plutôt de jeter un regard moraliste sur le pouvoir de Dieu et le pouvoir de l'homme. Et ça, c'est assez bien conservé, dans le livre. Donc, Mary Shelley va jeter les premières bases de cette histoire dans son livre. En fait, d'abord au début sur quelques feuilles, et puis finalement, avec l'encouragement de son mari, Percy Shelley, elle va le développer et éventuellement, en 1918, paraît la première version originale de Frankenstein ou le Prométhée moderne. Et là, évidemment, c'est un immense succès parce qu'on a tous les éléments là-dedans qui sont réunis. Et ce sont les mêmes éléments. C'est une espèce de, comment je pourrais dire, une recette du succès. On a là-dedans une vision à la fois horrible de l'idée de créer un cadavre. On a également des tabous. On va traverser des tabous, celui de redonner la vie. Donc, s'incarner dans le rôle de Dieu, ouais. C'est ce que fait Victor Frankenstein. Il devient Dieu, il devient le créateur de la vie. Et ensuite, tous les aspects moraux qui découlent de cette fabrication d'un être vivant. Donc ça, c'est pour le roman de Mary Shelley, de quelle façon il a été écrit, hein, les premières lignes, et avec, évidemment, cette petite écartade là, vers John Polidori et sa fameuse pièce de théâtre de Vampire qui continue de faire sourire. D'ailleurs, cette histoire d'Adiodati, là, lorsque ces gens-là se réunissent et décident de se lancer dans ce défi littéraire, il faut savoir qu'en 1986, on a adapté cette histoire-là, hein, l'histoire de la rencontre des grands d'Adiodati, et dans un film qui s'appelait Gothique, que je n'ai pas très apprécié parce que, bon, je trouve que souvent ça tourne autour plus de l'onirisme que de la documentation ou de l'inspiration historique. Mais néanmoins, il faut savoir que dans l'histoire de la littérature, la rencontre de Adiodati en Suisse, organisée par Lord Byron, a été un tournant important puisque deux éléments de la littérature de l'époque importants, The Vampire de John Polidori et Frankenstein de Mary Shelley, vont naître de cette fameuse rencontre. Maintenant, cela étant pour l'écriture du roman, on se pose la question, et des gens m'ont écrit pour me la demander,
oui.
Est-ce qu'il y a quelque chose de vrai dans Frankenstein? Et quelque part, la réponse, elle est oui. En fait, okay. Le personnage de Frankenstein n'est pas tout à fait une invention de Mary Shelley. Mais quand je dis pas tout à fait une invention de Mary Shelley, oui, son docteur Frankenstein, il est 100% Mary Shelley. Mais comment vient cette idée?
Cette inspiration-là,
ben, oui. Oui, cette inspiration. Hein, donc, quand il se baladait sur le lac Léman, on peut imaginer qu'ils avaient des conversations. Et juste, le lac Léman, ben, on est tout près de la frontière allemande. Et d'ailleurs, le nom de Frankenstein est un nom allemand. Et oui, il y a un château Frankenstein. Hein. Ce château Frankenstein, il est à Multal, en Allemagne. Il est à peu près en ruine aujourd'hui. Encore une colonne, je pense, ou deux qui sont... je l'ai visité, là. Je pense que c'est la colonne du donjon qui est encore utilisée. Puis on organise parfois des espèces de théâtres à ciel ouvert aux côtés du château Frankenstein. Oui, évidemment, c'est un nom qui résonne, hein, le château Frankenstein. Mais l'histoire est très intéressante du personnage qui a peut-être, hein, on le met entre guillemets, qui a peut-être inspiré le personnage du véritable baron Victor Frankenstein. Et ce personnage s'appelle Johannes Conrad Dippel. Et ce Johannes Conrad Dippel, il est né dans le château Frankenstein. Il est né en 1673. Donc, à l'époque, il faut savoir que le château Frankenstein servait également d'hôpital. C'était un très grand bâtiment. Il servait également d'hôpital, et surtout pour les indigents. Et c'est là, donc, que ce Dippel va naître dans le château Frankenstein. Et il va avoir une fascination, je dirais même une obsession pour le château Frankenstein. Il n'est pas lié à la famille Frankenstein, il n'a aucun titre de baron ou quoi que ce soit, mais le château où il va passer les premières années de sa vie, et il va y revenir à quelques reprises au château, l'obsède. Il souhaite devenir le propriétaire du château Frankenstein. Mais bref, on retrouve donc notre Dippel qu'il va se lancer dans des formations. Bon, il faut savoir que le cursus universitaire de l'époque n'avait pas la même profondeur que les cursus universitaires d'aujourd'hui. Fait qu'il se lance, hein, ce fameux Johann Dippel va devenir théologien, philosophe, médecin, chimiste, alchimiste. Donc tu vois, il fait à peu près de tout. Il va écrire notamment 70 livres sur la théologie. Et il faut quand même le dire, ces fameux ouvrages de théologie ce sont des ouvrages dans lesquels il dénonce un peu la... disons, la position de l'Église. Hein. Donc, il écrit sur la théologie, mais en même temps, il dénonce l'Église comme étant un peu trop fermée, okay. trop associée à des positions rétrogrades. Donc, il est un peu une espèce de révolutionnaire. Et éventuellement, ça va lui mettre à dos les autorités religieuses locales. Hein. On va l'accuser ouvertement d'hérésie. Donc, on a ce personnage qui va se retrouver à se balader un peu partout à travers l'Europe. Il va... Et là, on va lui prêter, hein, quand on veut nous noyer son chien, on dit qu'il a la rage, mais comme on veut diaboliser Dippel, certains vont l'accuser de faire des expériences, notamment d'utiliser la nouvelle trouvaille de ce moment-là, l'électricité. Mmh. Hein, on appelle ça l'énergie galvanique. Donc, il utiliserait apparemment... Oui, galvanique. Donc, il utiliserait l'électricité sur des morceaux de cadavres, d'animaux. Et là, bien évidemment, on ne l'a pas évité de franchi, hein, s'il le fait sur des pattes de grenouille, il le fait peut-être avec des humains. Fait que là, on va accuser Dippel d'avoir fouillé dans des cimetières, d'avoir extrait des cadavres, d'avoir fait des expériences sur les cadavres. Mais tout ça, dans le fond, c'est les foudres qu'il s'est attirées pour avoir pris des positions excessivement critiques par rapport à l'Église. Dans les faits, on ne trouvera jamais aucun élément qui permet de dire que Dippel a mené des expériences, mis à part quelques expériences sur des grenouilles, en utilisant de l'électricité. Puis, hein, quand on pense à Frankenstein, c'est « Il est vivant! He's alive! Oui. » C'est avec l'électricité qui ranime Frankenstein. Donc, on sait que Dippel a fait ça, mais bon, comme beaucoup de chercheurs, ils utilisaient cette énergie galvanique qui était la nouvelle grande trouvaille. Rien ne permet de croire que Dippel ait jamais travaillé sur des cadavres. Par contre, il prétendait, et ça, c'est peut-être ce qui nous rejoint avec l'immortalité de Frankenstein, Dippel disait avoir mis au point un élixir qui permettait de prolonger la vie. Et il va proposer ce fameux élixir. Hein, il va retourner au château Frankenstein. Il va proposer son élixir qu'il appelle l'huile Dippel. Il va la proposer à la famille Frankenstein en échange du château. ça fonctionnera
pas. Rien de moins.
Rien de moins. Et donc, on le retrouve un peu comme ça, errant à travers l'Europe. Et puis, il va décéder en 1734 d'une embolie cérébrale, probablement liée à la propre ingestion de ses concoctions. Mmh. Il faisait des porridges, puis des concoctions, puis il les prenait lui-même. On croit que ça l'a entraîné sa mort. Il décède donc d'une hémorragie, une embolie cérébrale. Il est âgé de 61 ans. Et c'est drôle parce que juste avant de décéder, il racontait à qui voulait bien l'entendre qu'il venait à nouveau de mettre au point une nouvelle élixir qui, celui-là, allait prolonger sa vie jusqu'à l'âge de 130 ans. Mais bon, clairement, ça n'a pas fonctionné. Soulignons toutefois que durant toute cette carrière un peu en dents de scie et toutes les expériences étranges que l'on a attribuées à Dippel, il a quand même, à un moment donné, été arrêté et condamné à 7 ans de prison pour hérésie, justement en fonction de ses positions très tranchées par rapport à l'Église. Donc, si on se repousse ensuite 150 ans plus tard, il est certain que le couple Percy Shelley et Mary Shelley, ainsi que le docteur Polidori ou encore Lord Byron, lorsqu'ils faisaient leur balade, hein, leur petite navigation sur le lac Léman, ils se racontaient toutes sortes d'histoires, il est certain qu'un moment donné ou un autre, ils ont certainement parlé du docteur Dippel ou l'alchimiste Dippel ou peu importe qui il était, mais ils ont sûrement évoqué ces fameuses expériences et peut-être même se sont-ils laissés entraîner dans les légendes où Dippel aurait travaillé pour essayer de ranimer des cadavres. Donc on peut supposer que c'est à ces niveaux, au niveau de ces histoires, de ces légendes locales qui circulaient autour de Johann von Conrad Dippel, que éventuellement Mary Shelley a imaginé les prémices de son baron Victor Frankenstein.
Et on en a fait un film sur Netflix que j'imagine tu vas vouloir peut-être commenter au retour de la pause, Christian?
Ben non, je pense que je veux pas trop. J'ai déjà commenté un peu le film. Oui. Je vais laisser les gens le plaisir de regarder le film, puis peut-être dans quelques semaines, on y reviendra. Mais moi, personnellement, si je prends 20 secondes. C'est un film qui est très bien, qui est très léché, peut-être un peu longuet, et peut-être qu'on a trop donné d'espace à ces longues discussions philosophiques entre Victor Frankenstein et la créature. J'ai l'impression que, encore une fois, Guillermo del Toro a voulu respecter un peu ici le style littéraire de Mary Shelley, mais si ce style littéraire était très à la mode en 1818, disons qu'en 1925, ça peut apparaître pour certains téléspectateurs quelque chose de redondant.
Donc, si je comprends bien, au retour de la pause, nous parlerons de la fameuse cité perdue de l'amiral Byrd.
La Terre creuse, oui. Pour faire plaisir aux amateurs de théorie du complot.
Parfait, bougez pas, vous êtes dans les Radio X-Files sur les ondes de Choix 98.1. Radio X, on revient après ceci.
Radio X-Files.
Avec Christian Page.
Radio X. Le retour de Radio X.
Mais tu sais, moi, je te le dis, là, puis j'ai de l'information. Mario, il est en train de s'organiser. J'arrive d'une rencontre. Mario va s'en aller à la chefferie de la CAQ. Mario, ça va être le Mark Carney de la CAQ. Ça s'en vient. Je vous le dis, le monde n'est pas prêt.
Avec la CAQ ou avec Éric Duhaime?
Moi, je pense avec la CAQ. Même si Mario Dumont le nie, gros comme le bras, ça bouge puis ça grenouille derrière.
Le retour de Radio X.
Lundi au vendredi, 15h.
Radio X. Présenté par Donnacona Ford. Tu veux un F-150? Donnacona Ford. Tu veux du 0%? Donnacona Ford. Tu veux 2-3 000 piastres de plus pour ton échange? Où ça? Ben, chez Donnacona Ford.
Si l'un de vos proches semble en détresse, ou que vous-même pensez au suicide, de l'aide existe. Communiquez avec le 1-866-APPEL. Parler, c'est le premier pas pour aller mieux. Un message du gouvernement du Québec.
La Grande Allée s'illumine et l'atelier t'attend. Pour un lunch, un apéro entre amis ou une soirée qui se prolonge, c'est la destination pour manger, boire et célébrer. Tartare, cocktail signature, ambiance festive, on s'occupe de tout, même de ta voiture, avec notre service de voiturier disponible tous les jours dès 16h. Prochaine sortie, Grande Allée, réserve dès maintenant sur bistrolatelier.com.
Sécurité légendaire et offres exceptionnelles sont au rendez-vous pendant l'événement Vendredi fou chez Volvo Ville de Québec. Et pas besoin d'attendre au fameux Vendredi fou. Profitez dès maintenant de 3000 $ d'économie sur le XC90 2026 hybride branchable Plus en location à partir de 549 $ aux deux semaines à un taux de 3,99%. Luxe scandinave et technologie intuitive inclus. Passez en mode ma vie, ma Volvo. Détails chez Volvo Ville de Québec. Des conditions s'appliquent.
La longueur importe peu quand on sait l'utiliser. Des articles coquins pour pimenter votre quotidien. Faites votre commande en ligne au sensationplus.com. Partagez le plaisir.
Chez Paradis Jardins et Accessoires, on passe en mode Noël. À ce temps-ci de l'année, tout le monde le sait. Quand on pense décoration de Noël, on se met à chanter la petite chanson. Paradis, paradis.
Salut, moi c'est Martin. J'ai une hernie discale. C'est tellement douloureux que je multiplie les visites à l'urgence, les absences au travail, puis je peux même plus jouer au hockey comme avant. Mettons que je trouve le temps long.
Martin était bien découragé. Mais l'espoir est revenu depuis qu'il a consulté les professionnels du Centre de correction vertébrale. Grâce à la décompression discale, Martin a repris sa vie là où il l'avait laissée.
Croyez-moi, le Centre de correction vertébrale, c'est la clé pour votre santé.
À Sainte-Foy-Lévis-Pont-Rouge et au centre CVQ.com.
Vous voulez une raison de sourire? Le biscuit sourire des fêtes revient chez Tim du 17 au 23 novembre. Vous pourrez avoir un délicieux biscuit et le plaisir de faire une bonne action. Parce que 100% du produit de la vente sera reversé à des organismes locaux et au camp Tim. C'est le fun, hein?
À Québec!
Le Vendredi fou est arrivé chez Desjardins Auto Collection pour tout le mois de novembre. Achetez la Ford Escape PHEV et recevez des pneus d'hiver. Et ce n'est pas tout. Achetez la Mach-E ou Lightning et courez la chance de gagner un crédit voyage de 2 500. Parce que le Vendredi fou, c'est encore mieux quand ça dure tout le mois. Certaines conditions s'appliquent. Passez nous voir dès maintenant.
À Québec, un Ford, ça se prend chez Desjardins Ford.
Maison Adam.
Profitez des prix du Vendredi fou garanti dès maintenant avec les experts de Maison Adam. Vivez votre divertissement en grand avec le téléviseur 75 pouces mini LED Bravia 5 de Sony à seulement 1999 $ avec 800 $ de rabais. Maison Adam vous offre une expérience d'achat clé en main avec la livraison gratuite, le service d'installation sur rendez-vous et le meilleur prix.
Maison Adam. Bienvenue dans la technologie.
Prêt à perdre vos feuilles? Elles vous feront rougir comme l'érable à l'automne. Vous auriez envie de vous enlacer dans leurs branches jusqu'à en perdre votre sève. Tous les jours de 9h à 23h, Gentleman Paradise sur l'avenue Branly. GentlemanParadise.com.
Capsule.
Radio X.
Meublère des fêtes, c'est 20 ans. Une entreprise 100% québécoise qui offre un financement flexible et avantageux. Plus de 6000 produits sur meublerd.com. Livraison disponible partout au Québec. Certaines conditions géographiques s'appliquent. Meublère des, bien se meubler, moins dépenser. Massoif.com, c'est le plus grand choix de bières locales disponibles en ligne au massoif.com et en boutique dans les locaux de viande PPA Allée sur le boulevard Wilfrid Hamel. Offrez-vous une expérience unique grâce aux meilleures bières d'ici. Massoif.com en ligne et chez Viande PPA Allée. Nordic est toujours là pour vous servir et économiser. Pièces d'auto pas chères, équivalentes ou supérieures à l'origine, au meilleur prix, service garanti depuis 45 ans. Passez-nous voir sur la première avenue au 9111 boulevard Henri Bourassa et en ligne au nordic.com. Chez Multiconfort FP, c'est le novembre fou. Des rabais exceptionnels sur nos thermopompes jusqu'au 30 novembre. Gardez vos orteils au chaud sans faire fondre votre portefeuille. Multiconfort FP, le confort à prix fou tout le mois de novembre.
This is not a test.
Radio X Files.
Avec Christian Page.
Radio X.
On est de retour dans les Radio X-Files sur les ondes de choix 98h Radio X. On met de l'avant les questions du public, Christian Page, et... Ben, un des sujets que les gens te parlent, ça semble être la cité perdue de l'amiral Richard Byrd. Pour être très honnête, aucune idée c'est quoi l'histoire.
Mais écoute, ça fait partie des théories du complot. Okay. Et à chaque fois que quelqu'un m'écrit à propos de ça, j'ai toujours tendance à retourner ça au calendrier grec. Oh non, pas encore la Terre creuse, okay, pas encore Byrd, pas encore les nazis. Mais bon, à un moment donné, là, mais c'est un sujet en même temps que je comprends qui intéresse beaucoup les auditeurs parce que ça fait partie d'une grande trame qu'on pourrait appeler l'occulte nazi. Et l'occulte nazi, ben on le sait, les nazis, on les aime bien. Hein. Ça fait des bons méchants, ouais, les nazis. Ben oui. Parce qu'ils ont des beaux uniformes, Hugo Boss, puis tout ça. T'sais. Donc, ça fait des bons méchants. Et donc, cette histoire-là, puis on a tous entendu parler des grandes rumeurs qui tournent autour du groupement nazi, de cette organisation politique. Hein, on dit, bon, le groupe est né d'une espèce de forme d'occultisme. Certains vont jusqu'à dire que les Allemands avaient construit durant la Seconde Guerre mondiale des soucoupes volantes. Et là, évidemment, si tu veux dégénérer, Hitler est pas mort au bunker en 1945. Okay. Il fuit en Amérique du Sud, où il vit dans une base en Antarctique. Et là, on pousse. Oui, les Allemands auraient même réussi à construire une base sur la face cachée de la Lune, puis ils auraient eu des contacts avec des extraterrestres venus d'Aldébaran, okay, avec une médium qui s'appelait Marie Orsic. Écoute, là, on ça est dans, loin, vraiment ouais, dans un univers du fantasme.
Oui.
Et crois-le ou non, je te le raconte, et moi-même, en te le racontant, j'ai failli me donner un coup de marteau sur la tête en me disant « Mais coudonc, c'est donc ben niaiseux ce que je suis en train de raconter là. » Parce que effectivement pris au premier niveau, tu te dis « Mais voyons donc, c'est du grand, grand n'importe quoi. » Et pourtant, il y a des gens qui adhèrent à ces croyances-là. Ils sont persuadés qu'il y a un fond de vérité derrière ça. Et l'idée de l'amiral Byrd arrive là-dedans. Donc, je t'explique un peu. Il faut quand même mettre un peu... Parce que tout ça tourne autour de l'Antarctique. Hein, le premier élément de base, la vedette ici, c'est pas Byrd, c'est pas les Allemands, c'est l'Antarctique. Donc, l'histoire, c'est cette relation que les Allemands avaient avec l'Antarctique qui va éventuellement être très exagérée. On nous dit, bon, les Allemands, comme je l'ai expliqué, après la Deuxième Guerre mondiale, ont fui vers une terre creuse située dans l'Antarctique. Puis bon, Hitler faisait partie du nombre. Il faut savoir qu'au sein des nazis, dans la garde rapprochée d'Adolf Hitler, il y avait des gens qui avaient baigné depuis des décennies dans des mouvements occultes et ésotériques en Allemagne. Ces groupements-là étaient nés à la fin du 19e siècle et ces gens-là avaient un peu un discours nationaliste où on espérait pouvoir recréer la grande Germanie d'autrefois. Il faut quand même se rappeler là, qu'à la Renaissance, jusqu'à la Renaissance, le Moyen-Âge et le début de la Renaissance, l'Allemagne, c'était quand même la Nouvelle Rome. Hein? C'était l'Empire germanique, là, tu sais, le Grand Empire germanique. Et on essayait éventuellement, quand est arrivée la Révolution française, la plupart des alliances qu'il y avait avec les autres pays d'Europe se sont effritées et éventuellement, ce Grand Empire romain germanique est disparu. Et là, il s'est transformé. Et donc, beaucoup d'Allemands rêvaient de ce retour de cette grande Allemagne qui avait succédé un peu au pouvoir de Rome. Hein. Et puis là, on imaginait Charlemagne. Hein. Il y avait des grands personnages, Charlemagne et les chevaliers teutoniques. Hein, un ordre de chevaliers très chevaleresque hein, auquel les Allemands aimaient s'associer. Et parmi les gens qui avaient baigné depuis l'adolescence dans cette culture, cette mouvance ésotérique, il y avait notamment Heinrich Himmler. Et Heinrich Himmler, on le sait, bras droit d'Adolf Hitler, directeur de la SS. Il avait même, au moment où Hitler va prendre le pouvoir, il avait réussi, comme il avait ses propres lubies, mais il y avait aussi... on contestait pas tout le temps hein, à Himmler. Quand Himmler disait quelque chose, on généralement disait
«
Oui, monsieur.
Hein? » Ouais,
on disait « Oui, monsieur, okay. c'est vrai, monsieur. » Donc, Himmler, dans cette espèce de lubie, va créer au sein de l'Allemagne nazie une société qui va s'appeler la société Annenerbe, qu'on pourrait appeler la société pour l'héritage culturel, le grand héritage. Et Himmler est persuadé que la prochaine race qui va gouverner le monde sera la race aryenne, annoncé par une espèce de mouvement ésotérique et mystique là, qui avait été créé par Madame Blavatsky, une espèce d'aventurière russe, très compliqué, mais bon, ouais. On disait ça, la prochaine race, c'est la race aryenne, et la race aryenne sera les descendants des Atlantes. Et Himmler y croit. Hein, donc, il va créer cette société, il va envoyer des gens, par exemple, des commandos nazis dans les montagnes du Tibet. Et là, on a des films d'archives où on voit ces gens-là en train de mesurer la largeur de la tête des Tibétains, la longueur de leur nez et tout le reste, parce que dans son espèce de folie, Himmler était persuadé que les Tibétains étaient les descendants des Atlantes et que éventuellement la race aryenne, la race allemande, allait, elle aussi, hein, quand je dis race allemande, c'est la race allemande supérieure.
Oui, oui.
C'est blond, bien musclé, oui. Tout ça, là, c'est vraiment l'élite. Là. Et il est convaincu donc que cette élite allemande doit avoir des traits qui vont les caractériser, qui vont les rapprocher un peu des Tibétains, puisque les Tibétains, c'est les descendants des Atlantes. Donc, des anthropologues vont se rendre là-bas, des anthropologues allemands à la botte d'Himmler vont se rendre là-bas pour mesurer la tête des Tibétains puis tout le reste. C'est de la folie, là. On est vraiment dans un monde complètement fou. Et Himmler croit à ça à un point tel. Il croit également que la Terre est creuse et qu'au centre de la Terre, il y a un soleil noir et qu'il y a des communautés qui vivent sur les parois internes de la Terre, éclairées par ce mystérieux soleil noir. D'ailleurs, pour avoir visité à quelques reprises le château de Wewelsburg, château qui était le lieu de résidence de Himmler en Allemagne là, durant la Deuxième Guerre mondiale, un château qu'il avait loué là, pour un Deutschmark là, par année. Quand on visite le château, il l'a fait très aménagé à ses goûts. Donc, on retrouve, par exemple, dans le grand salon, on retrouve plein de petites mosaïques qui rappellent les runes, hein, le langage un peu mystique et celtique. Et quand on arrive au sous-sol, il y a une espèce de grande pièce où Himmler souhaitait faire des réunions de hauts dignitaires nazis, dignitaires de la SS, et on voit au centre une espèce de mosaïque sur le plancher qui est comme un point noir avec des éclats autour, des éclairs, et on l'appelle le soleil noir. Donc les gens qui nous écoutent peuvent simplement faire une recherche dans leur moteur pour voir soleil noir, puis ils vont voir ce fameux symbole. C'est dans le château, dans une des chambres basses du château d'Himmler à Wewelsburg. Cela étant dit, Himmler adhère à cette idée d'une espèce de terre creuse. Et là, à partir de là, dans cette mythologie allemande, on va surtout s'inspirer d'un ouvrage qui s'appelle « La race future », qui est écrit par le baron Edward Bulwer Lytton, un ouvrage publié en 1871. Et dans cet ouvrage, l'auteur, c'est une fiction, on s'entend. Là. Ouais. Ces gens-là sont tellement déjantés là, qu'ils adhèrent à toutes sortes de fictions. Dans cet ouvrage de fiction, l'auteur raconte un peu un récit à la première personne, où il a visité, il a découvert un monde souterrain, cette fameuse race future, et ces gens-là ils forment une race supérieure, et ils maîtrisent un espèce de pouvoir universel qu'ils appellent le Vril. Cette société s'appelle les Vrilia, et ils disposent de ce fameux pouvoir universel qui s'appelle le Vril. Entendons-nous, là. C'est un ouvrage de fiction.
Mais eux et prennent pourtant, ça pour du cash, comme on dit. Là.
Voilà. Ouais. Donc, dans ce milieu ésotérique et mystique, on va récupérer le livre de Lytton en disant, ben, c'est peut-être présenté comme un roman, mais ça doit être vrai. Il parle d'un monde souterrain en Antarctique qui est occupé par des... Et là, on vient là, peu à peu à croire tous ces éléments-là. Maintenant qu'on gère bien ça, là, cette philosophie liée à la Terre creuse, dont l'accès se fait par l'Antarctique, et une Terre creuse qui est occupée notamment par les Vrils, par les Vrilia et leur pouvoir du Vril, on arrive maintenant à la réalité historique. La réalité historique, c'est qu'en Allemagne, à cette époque, durant la Deuxième Guerre mondiale, ça peut paraître étrange, hein, parce que quand on sait que l'Allemagne est un pays surtout enchâssé dans les terres d'Europe, c'est un pays qui a une forte industrie pour la chasse à la baleine. Donc, l'Allemagne produit quelque 500 000 barils d'huile de baleine par année.
Ah ouais.
Donc, c'est une industrie qui est florissante, qui est très lucrative, et éventuellement, les Allemands se disent que à ce moment-là, si on allait sur un territoire qui n'était pas occupé ou réclamé, on pouvait le réclamer au nom de notre pays. Et c'est ainsi donc qu'en 1939, les Allemands, on est en plein régime nazi, les Allemands vont envoyer un navire, le MS Schwanenland, ils vont l'envoyer en Antarctique, et ce navire va aller du côté des terres de la Reine Maud. Ce sont des terres qui sont, disons, au nord-est de l'Antarctique. Quoique, quand tu es dans l'Antarctique, tu es au pôle sud, donc il n'y a plus d'est et d'ouest. Là, si tu peux comprendre un peu que ça devient difficile.
Oui.
Mais bref, il y a les terres de la Reine Maud qui sont inoccupées et qui ne sont pas réclamées. L'idée ici des Allemands, c'est de dire on va arriver là, on va débarquer. D'ailleurs, ils vont être les premiers à faire une cartographie aérienne de cet endroit. Ils vont être les premiers également à y débarquer. Donc, on a des images d'archives où on voit des Allemands débarquer en Antarctique et planter le fameux drapeau avec la croix gammée. Mm-hmm. C'est la première fois que des gens débarquent. Il y a des Norvégiens qui avaient déjà navigué au large des terres de la Reine Maud, mais personne n'avait débarqué sur la banquise. Là, cette fois, les Allemands débarquent, plantent leur drapeau et ils comptent bien pouvoir réclamer,
seuls
l'approprier, parce qu'éventuellement, ils souhaiteraient développer des ports pour relancer une entreprise de chasse à la baleine en Antarctique et qui viendrait s'ajouter à la production déjà actuelle des quelques 500 000 barils d'huile de baleine qu'ils produisent chaque année. Le 15 février 1939, le MS Schwanenland va reprendre la route vers l'Allemagne. Et il n'y aura finalement, avec l'issue de la guerre, on comprend qu'il n'y aura jamais de réclamation pour ce pays. Hein. Ils voulaient l'appeler le Neuschwanenland, qui se serait appelé la Nouvelle Souabe en français.
Okay.
Donc, c'est ce qu'ils auraient voulu réclamer, mais ça ne se fera jamais, évidemment, parce qu'on connaît donc l'issue de la guerre. Donc, on a cette histoire, un peu ce fantasme entretenu par les Allemands, et on a cette réalité historique de la chasse à la baleine. Et là, on arrive à, justement, l'amiral Byrd. Après la Deuxième Guerre mondiale, il va y avoir plusieurs opérations qui seront menées en Antarctique, par les Britanniques et les Américains. La première, c'est une opération qu'on appelait l'opération Tabarin, où là, les Britanniques se sont rendus en Antarctique, ils ont installé des équipements, ils ont installé des bases relativement sommaires, et c'était pour avoir une présence britannique en Antarctique et également, il y avait juste avant la guerre, on y était allé, on avait commencé à étudier, à mettre des équipements scientifiques. Donc, on décide de reprendre un peu cette recherche scientifique en Antarctique. Donc, on a cette première opération Tabarin. Et ensuite, il va y avoir l'opération High Jump. Et c'est probablement l'opération la plus importante avec notre mythe nazi ici. Donc, entre décembre 1946, et le printemps 1947, les Américains vont lancer une grande opération qui, avec un très important contingent militaire. Ce contingent militaire, il est dirigé par le vice-amiral Richard Byrd, on y arrive, et le vice-amiral Richard Cruz. Et l'idée ici, c'est de faire une grande opération militaire parce que c'est le début de la guerre froide et on sait que durant la Deuxième Guerre mondiale, ce qui a coûté un peu l'effort de guerre allemand, c'est que les Allemands ont essayé d'attaquer les Soviétiques sur leur terrain en plein hiver. Donc, les chars d'assaut se sont enlisés dans la boue, se sont enligés dans la neige, les militaires étaient gelés, donc ça faisait pas des bons soldats. Donc, on s'est aperçu que les conditions extrêmes avaient joué en faveur des Russes au détriment des Allemands. Et les Américains se disent, on se fera pas damer le pion de cette façon-là. Puisqu'il y a la guerre froide, si éventuellement il devait y avoir une guerre entre les Américains, les Alliés, et la Russie, on veut s'assurer donc qu'on ne fera pas les mêmes erreurs que les Allemands. Et c'est comme ça qu'il met de l'avant l'opération High Jump. Ils vont mener des opérations entre 1946 et 1947. Et en 1947, à cause d'une série d'accidents et également des conditions climatiques très défavorables, on va abandonner le projet. Et là, on se dit, bon, évidemment, les gens qui ont été impliqués vont écrire leurs aventures, comment ça s'est passé. L'amiral Byrd va écrire au moins 3 livres dans lesquels il raconte ses histoires. Il raconte notamment l'opération High Jump. Il n'y a rien là-dedans. Tu te dis, mais quel est le lien avec les nazis? Il n'y en a pas. Mais éventuellement, dans le milieu de la culture du paranormal et des théories du complot, on va voir apparaître éventuellement un ouvrage qu'on appelle « The Secret Lost Diary of Admiral Richard Byrd », le journal secret disparu de l'amiral Byrd. Et dans cet ouvrage, que l'on dit avoir été écrit de la main de Byrd. Il raconte que lors d'un voyage en Arctique, et là je dis bien l'Arctique, oui, il aurait trouvé au centre de l'Arctique des zones tempérées avec une végétation luxuriante. Ben, c'est un peu de la foutaise parce qu'on sait aujourd'hui qu'en Arctique, il n'y a pas de terre. L'Arctique, là, tout le continent arctique n'est rien d'autre qu'une grosse calotte de glace qui flotte sur l'eau. Donc, il n'a pas pu voir ça. Alors, également, dans le même récit, on raconte qu'il a fait la même chose en Antarctique, qu'il a trouvé quelque part en Antarctique des zones où la température était tempérée avec une végétation luxuriante. Il aurait même trouvé une entrée menant à la terre creuse. Bref, un discours qui vient confirmer les espèces de croyances ésotériques et mystiques entretenues par tout cet ésotérisme allemand qui avait été adhéré, auquel adhéraient des gens comme Himmler et tout le reste. Et ça vient donner un coup de pouce à ceux qui adhèrent à ces fameuses théories. Mais il faut savoir que ce fameux journal secret de l'amiral Byrd, il n'existe pas. C'est une pure invention. Il a été repris également dans un ouvrage en français qui s'appelait « La Terre creuse » en 71 par Raymond Bernard, mais c'est un faux. Il n'existe pas. Les archives, tous les documents écrits par l'amiral Byrd, autant pour ses opérations, parce que c'est vrai que c'était un grand explorateur de l'Arctique, un grand explorateur de l'Antarctique, et tous ses écrits, le musée de l'amiral Byrd est conservé, tous les archives sont conservées dans la collection de l'Université de l'Ohio. Et dans les collections Byrd, il n'y a aucune référence à ça. Et ce journal, évidemment, il n'existe aucune version écrite du journal, parce que s'il y avait une version écrite, on pourrait la comparer avec l'écriture manuscrite de Byrd, alors qu'on n'a pas ça. Donc, c'est un faux. Le journal de Byrd est une supercherie. Et cette supercherie a probablement été, on suppose, là, ça devient un peu difficile de savoir qui est derrière la supercherie, mais visiblement, les gens qui sont derrière cette supercherie, ce sont des gens qui avaient à cœur de donner un nouveau coup de pouce au délire de ces fantasmes allemands sur l'idée d'une terre creuse et d'un pouvoir secret et du soleil noir et tout le reste.
Mais bon, encore une fois, des théories du complot, Christian, il y en a une puis une autre. Hein. C'est, on n'est pas à l'abri de...
On n'en finit pas. On n'en finit pas, puis ça devient... Déjà, on avait les problèmes avec des faux littéraires, comme le cas, par exemple, du journal secret de Bird. Mais là, on doit faire face également à l'intelligence artificielle.
En plus.
Et aux faux visuels. Hein. On a ouais. de plus en plus d'images qui... l'intelligence artificielle est si sophistiquée maintenant qu'on arrive difficilement à... On voit des images, les deepfakes et tout le reste. Ça devient presque impossible de séparer la vraie séquence d'une séquence qui a été altérée et modifiée. Moi, je me demande comment d'ici... Et l'intelligence artificielle, on y est confronté depuis 2 ou 3 ans seulement. Là, et on voit que la vitesse à laquelle elle se développe, c'est vraiment exponentielle.
Exponentielle, oui.
Je me pose la question, dans 10 ans, quels seront les outils que nous, journalistes, on aura à notre disposition pour pouvoir déterminer l'acuité, la qualité d'une information à travers toutes ces falsifications qui seront faites par l'intelligence artificielle? Je pense que c'est un beau défi qu'on a.
C'est tout à fait. Puis à la vitesse à laquelle ça se développe, parce que là, l'intelligence artificielle apprend tellement qu'elle se développe elle-même de façon exponentielle. Restera-t-il oui. des journalistes? C'est ça la question, c'est triste, mais...
quand y aura-t-il Christian Page numérique? Là,
ah oui! Je regarde parfois là, les vidéos, puis même les voix humaines reproduites de façon quasi intégrale par la machine, c'est inquiétant, là.
Oui, tout à fait. Et moi, c'est toujours un peu... quand est arrivé, dans mes premières années d'enquête, quand on utilisait, par exemple, la photographie, c'était de la photographie argentique. Donc, comment on pouvait vérifier si une photo était authentique? Bien, évidemment, on rencontrait le témoin, puis on demandait à voir ouais. le négatif. Hein, parce que le négatif, ça peut... Pas seulement le négatif de la photo, mais le négatif de la strip de négatif. Hein,
ouais.
Parce que des fois, la photo avant et la photo après peut nous révéler bien des choses. Hein. Si toi, par exemple, tu veux essayer de faire une fausse photo d'une soucoupe volante, bien, probablement que tu n'y réussiras pas le premier coup. Hein. Tu vas probablement prendre 10 photos, puis finalement, à un moment donné, tu as le bon angle, la bonne vitesse, le bon éclairage, finalement, tu y arrives. Mais si on regarde toute la bande de négatifs, je vais voir que la photo que tu proposes, elle a été précédée de 6 ou 7 autres tentatives. T'sais. Avec la photo numérique, c'est un petit peu plus difficile. Mais encore une fois, à partir du moment où on retrouvait le témoin puis on pouvait avoir accès à son appareil photo, on sait qu'on avait des métadonnées qui étaient gardées dans l'appareil photo et qui nous permettaient de voir quand la photo avait été prise et si elle faisait partie d'un lot de photos. On pouvait voir quelles étaient les photos qui avaient été prises avant et les photos après. Et si ces photos avaient été effacées par l'utilisateur pour empêcher l'enquêteur de le découvrir, bien, évidemment, dans les métadonnées, ça apparaissait. Hein. Il y avait des espèces de bons. Là, on passait de la photo 23 à la photo 28. On pouvait se poser la question, que s'est-il passé entre la photo 23 et 28? Hein? Il devait avoir quelque chose.
Là. Où sont-elles? T'sais?
Où sont-elles? Il y avait des éléments comme ça. Mais aujourd'hui, j'avoue, moi-même, là, si je devais me retrouver sur le terrain à mener une investigation, ça devient excessivement difficile, là, parce que... Beaucoup de ces éléments-là reposent sur des images qui ont été tournées par des films à partir d'une création d'un modèle numérique. Ça devient là, très, très, très compliqué.
Absolument.
Mais bon, ce sera de développer des outils qui permettront de mieux documenter ces sujets-là. T'sais.
Tout à fait. On n'a plus de temps, mais juste avant de terminer, parce que je sais qu'on a des gens qui nous écoutent un peu partout au Québec. Demain, tu seras en conférence du côté de Montréal.
Oui, absolument. Donc, demain, 15 novembre, je serai en conférence à Montréal. Je vais présenter une conférence que j'ai présentée à Québec le mois dernier, qui est Les grandes fraudes du paranormal. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les auditeurs qui ont passé de Radio X à la salle de la présentation de la conférence, parce que je sais qu'ils étaient très nombreux. Là. J'ai posé la question, combien de gens ici écoutent Radio X? Et je te dirais, on avait un 95 à 99% de gens dans la salle qui étaient des auditeurs. Donc, je les remercie. Donc, demain, je reprends cette conférence. Malheureusement, pour ceux qui n'avaient pas leur billet, ben, il est un peu tard parce que la salle, comme ça a été le cas, par exemple, à Montréal, c'est à guichet fermé maintenant. Et, écoute, il faudra attendre le printemps prochain pour une autre conférence de Christian Page.
Il me reste à souhaiter une bonne conférence, un bon week-end, puis on remet ça dès vendredi prochain.
Absolument. Bon week-end à toi.
Merci, Christian Page. C'était les Radio X-Files. Au retour de la pause, ne bougez pas. C'est la sexploratrice qui s'installe après ceci.
Radio X-Files.
Avec Christian Page.
Radio X. He's back. Ray the Sports. Dans Morey Live. Et Will est en direct. Ray the Sports.
Radio X.
La chronique Ray the Sports. Hey, c'est moi ça. Une présentation du Charbon Steakhouse. Avant le match, passez chercher vos côtes levées, burgers, steak ou plats cuisinés. Le charbon pour apporter, c'est une bonne idée.
En fin de semaine, écoute le show du matin week-end. Tu pourrais gagner une réparation gratuite jusqu'à concurrence de 500$ chez Silencieux Proto. Depuis 1962, Silencieux Proto s'occupe de vos problèmes de silencieux. Satisfaction garantie. Silencieux Proto à Québec et Lévis.
Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du palmarès Via Capital. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contact. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com, courtier immobilier Via Capital. SimonLaberge.com.
Vos rôtisseries Saint-Hubert vous offrent présentement le régal des fêtes. Une cuisse ou une poitrine avec tous les accompagnements, une mini tourtière avec ketchup aux fruits et une portion de notre fameuse tarte au sucre.
Retrouvez le plaisir de sourire en toute confiance. Au Centre dentaire Cartier, anciennement Girard et Martineau, l'implantologie dentaire, on s'y connaît. Contactez-nous dès maintenant pour obtenir une consultation sans frais et découvrir nos solutions sans greffe osseuse. Nous offrons également des soins dentaires complets, du nettoyage à la dentisterie esthétique pour toute la famille. Centre dentaire Cartier, c'est une équipe humaine et professionnelle qui saura être disponible et à l'écoute de vos besoins. Alcartier Québec.
Depuis que j'ai parlé de mes dettes avec Raymond Chabot, j'ai retrouvé le goût d'organiser mes soupers de filles. On a bien du fun ensemble. J'ai aussi repris mes soirées cinéma avec mon gars. J'y fais découvrir mes classiques. Puis j'ai même recommencé à faire du yoga. Moi, ça fait vraiment du bien de retrouver